Thank you. Bonsoir à tous. C'est une joie de vous retrouver en ce mercredi soir, une fois de plus, sur ce format Les Essentiels de la foi. Et semaine après semaine, je prends toujours plus de plaisir à préparer ces moments, à étudier la parole de Dieu, à essayer de répondre à vos questions. Alors continuez à poser vos questions, n'hésitez pas à le faire sur le live, à le faire aussi en commentaire de cette vidéo si vous revoyez cette vidéo en rediffusion, ou même à m'écrire à cette adresse qui s'affiche en bas. contact.pastorsam@gmail.com. Je remercie tous ceux qui m'écrivent, qui m'ont posé des questions, je prends plaisir à vous lire. Merci aussi pour les encouragements, pour aussi les témoignages partagés. C'est un plaisir d'être en lien aussi avec ceux qui me regardent, parce que finalement, c'est dans l'échange et les moyens technologiques nous le permettent que nous pouvons grandir ensemble dans notre foi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Église Paris Métropole, en cliquant sur s'abonner et en activant les notifications. Ça vous permettra à la fois de suivre ce cours, mais aussi de voir tous les contenus que l'Église peut proposer, les différents lives, les différentes prédications que les différents pasteurs peuvent nous amener. Alors, aujourd'hui, avant de commencer notre cours, je vais répondre à une question que nous avons reçue la semaine dernière, pendant que le cours sur le pardon se déroulait. Cette question disait: si Dieu ne pardonne pas sans repentance, comment nous pouvons pardonner si l'autre ne reconnaît pas sa faute, son tort ou son péché quelque part? C'est une question très intéressante et je vais m'arrêter quelques minutes sur celle-là parce qu'elle me paraît primordiale, il me paraît primordial d'y répondre pour ne pas rester sur une pensée qui pourrait être erronée. Alors déjà, on peut se dire que dans cette question, il y a deux réalités de pardon. Il y a ce pardon que l'on peut recevoir de Dieu et le pardon que nous pouvons accorder aux hommes, à ceux qui nous ont fait du mal. Et pour essayer d'expliquer, de répondre à cette question, je vais reprendre une parabole, une histoire que Jésus utilise. Jésus, à un moment donné, enseigne à la foule et à ses disciples et explique que, il y avait un homme qui avait une dette extrêmement importante par rapport à un créancier. Et il était dans une situation où il ne pouvait pas rembourser. Et il va voir son créancier, et le créancier va lui dire, touché par son histoire, va lui dire: je te remets l'ensemble de ta dette. Et il est dit que cet homme est sorti de d'avoir vu son créancier et va rencontrer sur le chemin un homme qui lui doit une petite somme. Et il va décider de ne pas remettre la dette, mais de lui demander de payer. Et en attendant de payer, il jeta cet homme en prison. Le créancier qui avait remis cette dette énorme va être choqué, marqué par cette réalité-là, parce qu'il ne va pas comprendre pourquoi celui à qui il a remis une énorme dette n'est pas capable de remettre des dettes qui sont peut-être parfois plus faibles. Cette histoire est en fait là aussi pour illustrer les deux réalités du pardon qui peut exister entre nous, les hommes, et notre Dieu, et entre nous, les hommes, et d'autres personnes. Dieu nous a remis une dette extraordinaire. Ce que nous avons fait à l'encontre de Dieu, notre péché, nos actions sont une somme extraordinaire, quelque chose d'irréparable. L'homme ne peut pas se racheter tellement ce qu'il fait, ce qu'il produit, est tellement loin de la nature de Dieu. Pourtant, Dieu a pourvu au salut, a pourvu au pardon, en accomplissant cet acte ultime de mort, de sacrifice à la croix et de résurrection, en venant sur terre. Jésus, en venant sur terre, a tout prévu pour notre pardon. Et en effet, nous devons nous repentir pour que ce pardon soit efficace. Mais, quelque part, si nous réfléchissons à la logique du pardon de Jésus, nous devons réaliser que ce n'est pas parce que nous nous repentons que Dieu nous pardonne, parce que le pardon que Dieu a prévu, le pardon que Dieu a en réserve pour nous, il existe déjà. Et je viens de dire dans mon expression, quelque part, l'idée même de ce que Dieu fait. Le pardon de Dieu est en réserve pour nous. En fait, il a déjà pourvu à notre pardon. La repentance que nous allons avoir ne sert qu'à finalement activer le pardon qui est déjà prévu par Dieu, par Jésus, par son œuvre. C'est-à-dire que si vous vous levez un matin et que vous demandez pardon à Dieu pour quelque chose que vous avez identifié comme étant mauvais à son encontre, étant une action qui est contre Dieu, en vous repentant, ça ne veut pas dire que Dieu crée un nouveau pardon pour vous. C'est que la relation qui pouvait exister entre Dieu et vous est désormais restaurée. parce que vous vous êtes repenti, le pardon qui est déjà prévu de la part de Dieu peut s'établir et produire ses effets bénéfiques à votre rencontre. Ça, c'est ce qui existe entre Dieu et l'homme. Le pardon et la repentance, quand ils se trouvent confrontés et en lien, créent la relation entre Dieu, entre votre Créateur et entre vous. Alors, qu'en est-il de ma relation à l'autre? Qu'en est-il de mon pardon et de ce que les hommes m'ont fait? Nous devons être dans une réalité inverse, finalement, et nous devons être comme ce que Jésus fait pour nous. C'est-à-dire que nous devons pardonner par avance. Nous devons pardonner par avance et ne pas attendre que la personne qui m'a fait du mal se repente de son péché pour que la réalité libératrice du pardon puisse s'exercer sur ma vie. Finalement, quand nous pardonnons quelqu'un, nous sommes comme Jésus qui pardonne à l'humanité alors que l'humanité ne veut pas de lui et le rejette. Lorsque Jésus est à la croix, il accomplit ce sacrifice qui va permettre le pardon des péchés, mais l'humanité n'est pas du tout en train de se repentir. Il le fait par avance, pour libérer. Et quand il y a repentance, l'action parfaite de ce qui peut être comme conséquence au pardon, c'est-à-dire la restauration de la relation, peut prendre place. Dans votre cas, dans le cas de la personne qui se pose la question, mais je crois que cette question nous la posons tous, nous devons pardonner pour faire la part qui nous revient, libérer la puissance du pardon. Et nous devons espérer, prier pour que la personne qui nous a fait du mal un jour revienne à son bon sens et réalise ce qu'elle a fait, se repente et puisse vivre la puissance de la restauration. Mais de notre côté, nous devons libérer. Parce que si nous ne pardonnons pas et si nous attendons la repentance de celui qui nous a fait du mal, nous serons bloqués parfois définitivement dans des situations. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Et toutes les personnes qui vous ont fait du mal, toutes les personnes qui vous ont blessé, même peut-être des personnes qui vous ont abusé, ne vous demanderont pas pardon. Peut-être que des personnes vont mourir en ayant gardé ce péché qu'elles ont commis à votre rencontre dans leur cœur sans vouloir jamais se repentir. C'est la liberté de l'homme. Mais votre part à vous, c'est de pardonner pour vous libérer. Pour libérer cette puissance du pardon sur vos vies et pour ne pas casser la relation que vous avez restaurée entre Dieu et vous. C'est ce que Dieu dit, si vous n'êtes pas capable de pardonner, je ne suis pas capable de vous pardonner. Et l'important, c'est de restaurer votre relation avec Dieu. Et s'il est possible de restaurer votre relation avec les hommes, tant mieux. Mais ce ne sera pas 100% le cas. Mais vous devez pardonner. Vous devez en avance, même si on vous a fait du mal à vous, vous devez pardonner pour vous aider à avancer, pour vous libérer de l'emprise du péché, de ce que l'homme en face, ou la femme d'ailleurs, a pu vous faire. Ça, c'est le péché qui veut vous enfermer. Le péché de quelqu'un d'autre qui veut vous enfermer et vous plonger dans une culpabilité, vous plonger dans une solitude, vous plonger dans le désespoir. Mais Dieu veut vous libérer à travers le pardon. Alors j'espère que cette réponse sera assez complète pour vous aider à cheminer dans ce chemin. Parce que c'est un chemin, le pardon. Ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une facilité. Évidemment, il y a des situations plus faciles à pardonner. Dans une relation de couple, dans une relation amicale, il faut toujours chercher à pardonner très rapidement pour créer ce climat du pardon. Mais dans des relations humaines beaucoup plus conflictuelles, des fois c'est blessant, c'est difficile le chemin du pardon. Mais Dieu va vous aider, et je le crois. C'est ma prière pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre sujet. Nous allons voir un sujet qui est en lien avec la prière et la volonté de Dieu. Ce sujet est venu sur mon cœur depuis quelque temps suite à une question d'une chrétienne de mon église à Lognes. Et j'avais déjà commencé à lui répondre directement envers elle, mais aussi en faisant une vidéo pour le campus de Lognes. Et j'avais envie de revenir sur ce sujet pour l'ensemble de la communauté. La question aujourd'hui, c'est « Ma prière peut-elle s'opposer à la volonté de Dieu ?» Ma prière peut-elle s'opposer à la volonté de Dieu? Et je vais commencer par une citation. Vous avez l'habitude que je prenne des citations. Je vais prendre une citation très particulière que nous trouvons dans un écrit, dans une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre intitulée « Le cardinal d'Espagne », écrite par Henri de Monterland, un poète, un écrivain, on va dire, un homme de théâtre du XXe siècle en France. Et en 1960, il va publier cette pièce de théâtre, « Le cardinal d'Espagne », qui retrace, dans un contexte historique du royaume d'Espagne au XVIe siècle, qui retrace différentes choses, et souvent les écrits de Monterland étaient empreints de spiritualité, mais d'une spiritualité parfois un peu particulière. Il dit cette phrase, il met cette phrase en tout cas dans la bouche d'un des personnages de cette pièce de théâtre, qui dit: Mon Dieu, faites-moi la grâce que je fasse toute ma vie ma volonté et non la vôtre. Je répète, Mon Dieu, faites-moi la grâce que je fasse toute ma vie ma volonté et non la vôtre. Alors cette phrase est en fait dans le contexte de ce livre, c'est dans l'acte 2 et la scène 3 de ce livre, dans ce contexte-là, et c'est en fait une phrase blasphématoire. Évidemment, ça retourne un verset biblique, le fait de vouloir vivre la volonté de Dieu. Et ça a créé cette forme de blasphème dans la bouche de cette reine d'Espagne. Mon Dieu, faites-moi la grâce que je fasse toute ma vie ma volonté et non la vôtre. Et autant, voilà, c'est une phrase qui est dans ce contexte-là blasphématoire, parce qu'elle est dans un contexte très religieux. Autant, quelque part, en lisant cette phrase, je me suis dit, est-ce que quelque part au fond de nous, humainement, nous ne sommes pas souvent en train de formuler ce désir? De faire finalement de nos vies un lieu d'expression libre, et de ne pas vraiment se préoccuper de ce que Dieu veut. Mais j'ose croire que si vous regardez cette vidéo, peut-être qu'au contraire, vous avez souvent fait une prière inverse et vous êtes dit, mais moi je veux vivre la volonté de Dieu. Je veux voir les fruits de la volonté de Dieu. Je voudrais voir en exercice dans ma vie l'action puissante de Dieu. Et pour cela, j'ai recours à la prière. Pour cela, je prie. Et j'espère voir dans ma vie des choses puissantes, des choses merveilleuses. Mais rapidement, alors que ce raisonnement se met en place, on peut commencer à voir notre raison qui prend le dessus, notre logique, et se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut finalement? Est-ce que Dieu veut réellement que je prie pour ces choses? Est-ce que finalement, en priant, je ne vais pas m'opposer à la volonté de Dieu? Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps à prier pour des choses que Dieu a décidées par avance? Et donc, on commence à observer les événements. Et en fait, aujourd'hui, alors que nous sommes dans cette pandémie, dans ce... Bon, maintenant, nous déconfinons, mais nous sommes toujours très pris par cette actualité du coronavirus. Nous sommes vraiment face à un événement mondial qui, encore plus, réactive notre questionnement par rapport à la volonté de Dieu. Certains ont interprété ces moments que nous traversons comme une volonté de Dieu, pour punir les hommes. Mais en même temps, quand nous sommes malades, quand nos proches sont malades, au-delà de tous ces raisonnements parfois démagogiques, la seule chose qui nous intéresse, c'est de prier pour ceux qui sont proches de nous. C'est de nous dire finalement, mais Seigneur, interviens. Et puis, il n'y a pas que le Covid, il n'y a pas que cette maladie, il y a tout un tas de maladies. Aujourd'hui, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui est frappé par une maladie pour laquelle les hommes n'arrivent plus rien à faire. Le diagnostic est en place, il n'y a plus d'espoir. Votre cœur, votre amour vous pousse à prier. Mais parfois, nous prions et nous disons finalement, Dieu, quelle est ta volonté? Est-ce que je ne prie pas pour rien? Est-ce que je ne suis pas trop loin de ce que tu penses? Et du coup, est-ce que je ne m'épuise pas en vain? Alors, est-ce que ma prière peut-elle s'opposer à la volonté de Dieu? C'est des raisonnements légitimes. Et nous allons voir trois textes, mais avant de les regarder, j'ai envie de vous dire qu'il nous faut d'abord faire une distinction entre ce que Dieu permet et ce que Dieu a voulu. Parce que Dieu permet beaucoup de choses. Beaucoup de ce qui arrive autour de nous, de ce que nous vivons, de ce que nous voyons se mettre en place autour de nous, relève de la permission de Dieu, pas forcément de sa volonté. Relève de la conséquence des actions de l'homme, pas forcément d'un plan établi et défini par Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Nous le voyons dès la création. Il y a une liberté de choix qui est donnée à Adam et Ève. Et Dieu ayant créé l'homme libre, beaucoup de ce que vous allez vivre, de ce que nous vivons, est la conséquence des actions de l'homme. Je le disais plus tôt dans les premiers cours que nous avons vus, en répondant à certaines questions, il faut quand même observer que beaucoup de ce que nous vivons relève de l'action de l'homme, ou en tout cas de ses conséquences. Malheureusement, Dieu est souvent le plus grand des coupables. Quand les choses vont mal, quand les choses sont difficiles, quand il y a de la souffrance, souvent Dieu est désigné comme le premier coupable. Mais bibliquement, faisons la distinction et comprenons que tout ce qui arrive devant nous n'est pas toujours une volonté établie et définitive décidée par Dieu, mais aussi une permission que Dieu met en place pour l'expression de la liberté des actions de l'homme. Alors nous allons voir trois textes bibliques qui vont nous faire réfléchir à cette question que je vous ai posée. Ma prière peut-elle s'opposer à la volonté de Dieu? Nous allons voir premièrement ce texte de Luc chapitre 11 versets 9 à 10 et nous allons le lire. Luc chapitre 11 versets 9 à 10 nous dit « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Ce texte-là, d'ailleurs, j'en ai parlé la semaine dernière dans une petite vidéo. Ce texte-là nous montre combien Dieu écoute nos prières. Et parce qu'il est un Père qui est bon, il va donner généreusement à celui qui demande. Mais c'est vrai qu'en lisant ce texte, on a l'impression qu'il suffirait de demander pour obtenir toute chose que l'on demande, sans limite, sans réflexion finalement. Et c'est un texte qui est un boulevard pour notre prière, qui nous encourage à la prière, et c'est une bonne chose, puisque c'est Jésus qui le dit. Mais du coup, est-ce que je vais pouvoir demander des choses qui s'opposent à la volonté de Dieu? Parce que finalement, si Dieu me donne tout ce que je demande, ben, où est la volonté de Dieu dans cette histoire? Le deuxième texte que je vais lire se trouve dans Matthieu, chapitre 21. Et je vais lire les versets 21 et 22. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là, elle, et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Ça aussi, c'est un texte. D'ailleurs, ce premier verset, le verset 21, c'est un des versets les plus utilisés pour critiquer la foi des chrétiens, la foi et la prédication de Jésus. Si on se plonge dans les écrits français du XVIIIe siècle, si on regarde Voltaire a écrit plusieurs histoires basées sur ce verset-là, en s'en moquant, puisqu'évidemment, Voltaire maniait l'ironie, et souvent, il caricaturait la foi des chrétiens en utilisant ce verset, en disant « Mais finalement, vous êtes extrêmement crédules. C'est qu'est-ce que c'est cette foi ?» Mais pour nous, c'est un texte qui est très fort, puissant, et que nous devons garder au plus près de nos cœurs. Ce passage nous enseigne quelque chose de plus par rapport à ce que nous avons vu dans Luc 11. Oui, il faut demander, mais Jésus, là, nous dit « demander avec foi ». Il y a un élément de notre prière qui est là, et qui est important à ne pas négliger. Il faut demander avec foi. Mais si j'ai la foi, alors, je peux obtenir finalement ce que je veux. Je peux même déplacer des montagnes, je peux me demander à des éléments physiques, géographiques, de se déplacer. Mais où est la volonté de Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu a envie que cette montagne se déplace? Est-ce que Dieu l'a prévu? Finalement, ces versets continuent à enclencher autant de questions pour nous, sans apporter totalement une réponse. Nous allons lire un verset qui va être très intéressant par rapport à notre question, que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 6. Nous sommes au cœur de ce sermon sur la montagne, dans les trois versets, les trois chapitres 5, 6, 7, où Jésus va prononcer des enseignements extrêmement forts. Et au cœur de ces enseignements, Jésus va enseigner ses disciples à prier. Il leur dit dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et là, on est en plein au cœur de notre question, puisque Jésus est en train d'enseigner à prier, et qu'au cœur de cette prière que peut-être vous connaissez par cœur, peut-être selon l'arrière-plan culturel que vous avez, religieux, vous avez peut-être appris cette prière. Au cœur de cet enseignement de la prière, Jésus va dire comment prier, et en même temps, on va parler de la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, quand je prie, naturellement, selon ce que Dieu me demande, naturellement, je dois désirer vivre la volonté de Dieu. Ça nous renvoie à notre question. Finalement, quand je prie, est-ce que je suis en train de faire des prières qui m'intéressent à moi? Est-ce que je ne suis pas en train de m'opposer à la volonté de Dieu? Est-ce que je suis réellement en train de désirer que la volonté de Dieu s'exprime dans mon quotidien, dans les circonstances que je vis sur cette terre? Alors pour répondre à cette question et en gardant à l'esprit ces versets que nous avons lus, je voudrais aborder un principe théologique important pour moi. Évidemment, nous n'allons pas faire en quelques minutes un cours sur la volonté de Dieu exhaustif, et nous reviendrons probablement sur d'autres aspects de la volonté de Dieu plus tard. Mais je vais mobiliser deux concepts théologiques aujourd'hui avec vous pour essayer de comprendre qu'il y a différentes volontés de Dieu quelque part. Nous avons ce qu'on appelle la volonté révélée et la volonté secrète de Dieu. La volonté révélée et la volonté secrète de Dieu. D'un côté, la volonté révélée, c'est ce que Dieu dit à l'homme, c'est ce que Dieu révèle à l'homme, et aucun homme n'est privé de comprendre et de connaître cette volonté-là. Cette volonté révélée s'exprime dans la parole de Dieu. Ça nous renvoie à ce que j'avais dit, il me semble, lors de mon premier cours, sur la révélation que Dieu donne aux hommes. Nous trouvons la volonté révélée de Dieu dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Il y a des commandements, il y a des lois, il y a des principes bibliques qui nous montrent ce que Dieu désire et ce que Dieu veut. Cette volonté révélée, elle est en partage pour tous. Et si vous vous posez des questions quand vous priez, et vous avez peur d'aller à l'encontre de la volonté, il suffit de regarder et d'étudier la parole de Dieu pour savoir si nos prières sont en accord avec ce que Dieu veut. Évidemment, quand Dieu dit, et Jésus nous dit, demandez ce que vous voudrez finalement, et cela vous sera accordé si vous le faites par la foi, si vous frappez à la porte de Jésus. Évidemment, il y a d'une manière implicite, et il le dit à d'autres endroits, nous n'avons pas eu le temps de voir tous les textes, il y a de manière implicite cette réalité que ce que nous demandons, évidemment, doit être en accord avec ce que Dieu nous a révélé comme étant sa volonté révélée. Si vous demandez quelque chose qui est en désaccord avec la loi de Dieu, avec les commandements divins, si vous demandez ces choses-là avec toute la conviction que vous pouvez avoir, Dieu va vous préserver en n'accomplissant pas ce désir-là. Alors, je n'ai pas envie de vous empêcher de prier, parce que si on commence à réfléchir dans ce domaine-là, on pourrait s'interdire de prier ayant peur de ne pas faire la volonté de Dieu. Dieu est assez bon, Dieu est amour, Dieu nous aime et est patient à notre égard. Et parfois, peut-être, nous avons prié d'une manière qui n'était pas en accord avec ce que sa volonté révélée nous exprime. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous condamne ou Dieu nous empêche de prier. Dieu va venir avec pédagogie nous enseigner ce qu'il doit nous enseigner. Il va venir se révéler par son esprit et nous faire comprendre que peut-être la situation pour laquelle nous prions, peut-être que nous devons la voir sous un autre angle. Mais pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, je vous invite vraiment à plonger vos regards dans la parole de Dieu, à plonger vos regards dans ce qui est révélé et à chercher toujours plus finalement le cœur de Dieu. On fait toujours des erreurs, et évidemment, mais Dieu se révèle et Dieu s'est révélé tellement dans tellement d'histoires, dans tellement de vies qui nous sont racontées dans la parole de Dieu que nous avons accès à une part de la volonté et de la connaissance de Dieu. De l'autre côté, nous avons cette volonté qui est secrète. Et la volonté secrète, c'est ce qui est caché. Alors je sais bien que dans le milieu chrétien, parfois, nous aimons les choses cachées parce que nous avons l'impression que par beaucoup d'efforts mystiques, nous allons les découvrir. Mais pour vous rassurer ou pour vous arrêter dans cette course, je vais vous dire que quand je parle de volonté secrète, c'est de réalité que personne ne pourra toucher. Il y a des choses qui sont en Dieu, qui ne sortiront pas de Dieu, quels que soient vos efforts, votre jeûne ou peut-être votre prière. Vous n'aurez pas de révélation de certaines réalités qui sont en Dieu. Dieu a des plans pour le monde qu'il ne dévoilera pas jusqu'au jour où les choses arrivent. Alors nous avons beaucoup de personnes qui se revendiquent être capables de percer les mystères de Dieu, mais quelle que soit la qualité ou la connexion d'une personne avec Dieu, il y a des choses qui resteront et qui sont secrètes en Dieu. C'est tout simplement la différence qu'il y a entre un créateur et ses créatures, entre Dieu et les hommes. Même si votre relation a été restaurée par le pardon et que vous êtes en communion avec Dieu par son esprit, il y a des choses qui resteront cachées. Par le passé, Dieu a révélé des secrets à des prophètes, par exemple, à des prophétesses. Et c'est la Bible qui nous le dit. Et nous voyons aujourd'hui parfois s'accomplir devant nos yeux des choses que Dieu a données à ses prophètes. Mais il restera toujours une part de caché, une part secrète en Dieu. Jusqu'au jour où les choses arrivent et nous constatons ce que Dieu voulait dans les vies, ce que Dieu voulait pour le monde. Alors ça ne sert à rien parfois de vouloir interpréter toutes les choses et vouloir croire qu'on comprend mieux la volonté de Dieu que le voisin. Mais par contre, cette partage entre volonté secrète et volonté cachée ne doit pas nous plonger dans le fatalisme et d'en dire finalement « je n'arrive plus à prier parce que j'ai peur de prier contre la volonté de Dieu » ou « ça ne sert à rien de prier parce que finalement peut-être que tout ce qui se fait devant moi, tout ce qui prend forme devant moi est l'expression d'une volonté secrète de Dieu que je ne comprends pas ». Au contraire, tout ce que nous venons de dire doit nous emmener à avoir cet enthousiasme à la prière et à nous dire « la seule chose que je dois viser, c'est de connaître Dieu plus que tout. C'est d'être comme ce roi David, de chercher Dieu, d'être près de son cœur, de le connaître toujours plus, de plonger mes regards dans la parole de Dieu, de méditer ses psaumes, de faire mien cette parole et de connaître toujours plus la volonté révélée de Dieu pour pouvoir toujours mieux prier. » Par contre, de réaliser qu'il y a une volonté secrète qui m'échappe et mon rôle n'est pas de me poser des questions sur tout et de retourner chaque événement, chaque situation que je traverse pour m'arrêter dans la prière, mais au contraire de dire « Seigneur, je ne connais pas ta volonté, mais je te prie d'agir dans cette situation. » Ce n'est pas mon problème finalement de savoir si cela est ta volonté, que cette personne soit malade ou que cette personne peut-être décède de cette maladie, comme par exemple certains dans la parole de Dieu sont décédés d'une maladie. Ou que ce soit ta volonté que cette pandémie arrive pour la France ou le monde, est-ce que je dois prier pour ces choses-là ou pas? Moi, mon rôle, moi, mon job, moi, mon travail de chrétien, c'est la prière. C'est le seul travail. Notre boulot de chrétien, notre vie du chrétien, c'est quoi? C'est mettre du temps à part pour prier. C'est notre travail. Et notre rémunération, quelle est-elle? C'est la réponse à la prière. C'est la réponse à la prière. Notre travail, c'est de prier pour les âmes. Ce n'est pas de savoir si, qu'est-ce qui se passe dans le cœur. Est-ce que la volonté de Dieu est en train de se manifester dans ce cœur? Mon boulot, c'est de prier pour les âmes pour qu'elles soient sauvées. Mon boulot, c'est de prier pour les gens malades que je rencontre parce que Dieu nous a montré dans sa parole que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons la guérison. Et mon boulot, c'est de prier pour ces choses-là. Ne pas de rentrer dans des raisonnements qui vont m'arrêter, me ralentir. Parce que le doute, l'arrêt dans la prière, ce ne sont que des pièges de l'ennemi pour nous empêcher de saisir les choses que Dieu veut nous faire vivre. Alors j'espère que ce que je vous dis ici vous encourage à prier. J'ai envie que tous ceux qui nous regardent ce soir et qui regarderont en rediffusion cette vidéo puissent passer un temps après cette vidéo pour prier pour une chose pour laquelle tu as cessé de prier, pour lesquels ton cerveau t'a arrêté parce que tu t'es dit « finalement, c'est peut-être la volonté, il y a ce fatalisme qui est rentré ». Je t'invite, pendant quelques minutes après cette vidéo, à prier pour une chose pour laquelle tu as arrêté de prier, afin que Dieu vienne faire une brèche dans cette situation, vienne faire une brèche et puisse accomplir un miracle particulier, puissant. Le miracle ne se fait pas par le travail d'un homme, d'un pasteur, de quelqu'un de particulièrement loin. Le miracle se fait par l'Esprit de Dieu qui est présent. Ici, là où je filme, dans ma maison, là, avec ma famille, mais ici où vous êtes, là où vous êtes à regarder, l'Esprit de Dieu est près de vous. Et ce qu'il veut faire dans votre vie est puissant. Alors n'hésitez plus à prier. Oui, peut-être que notre prière, parfois, est allée à l'encontre de la volonté de Dieu. Peut-être que c'est allé à l'encontre de choses qu'il avait décrétées dans son ciel de gloire, mais dont nous n'avons pas la connaissance. Mais ce n'est pas grave, Dieu ne nous emportera pas rigueur. Par contre, il se plaît de voir ses enfants. Il se plaît de voir les hommes et les femmes qui reconnaissent en lui le Tout-Puissant. Il se plaît de les voir invoquer son nom dans des situations qui semblent désespérées. Il se plaît de voir l'homme qui, malgré toute son intelligence, sa science et ses moyens, quand il est très vite limité, se tourne vers lui et crie avec force, avec foi, avec certitude, qu'il recevra une réponse à sa prière. Alors que le Seigneur vous bénisse, c'est vraiment ma prière de voir dans ma vie, dans votre vie, des puissantes brèches dans des situations qui ont semblé être complètement fermées jusqu'à présent. Le Seigneur a mis ce message sur mon cœur, je crois qu'il va faire quelque chose dans votre vie. Alors n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions à cette adresse qui se remet en bas, contact.pasteursam@gmail.com. Je suis à votre disposition. C'est mon cœur pour vous. C'est ce que nous faisons tous ensemble dans l'équipe pastorale. Nous sommes là pour vous, alors n'hésitez pas, ne restez pas seul dans vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Que le Seigneur vous bénisse et prenez quelques minutes pour prier pour une situation pour laquelle vous ne priez plus jusqu'à présent. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.